It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Hey, boys! Did you hear that noise? Did you hear that thunder sound? Say, boys, do you know that noise?
Well, Mr. Blues is coming to town. Get your business straight. Mr. Blues is coming to town. Get your business straight. Mr. Blues is coming to town. You've got to stop that jive that you've been putting down. I might come by plane, might come by train, might grab a boat and sail. So don't be surprised if you open your eyes and find me in your morning's mail. Catch your business straight, Mr. Blues is coming to town.
C'est une émission très musicale que nous allons vous proposer aujourd'hui, et ce grâce à notre invité du jour qui a conservé, recueilli, revitalisé des archives sonores épatantes réunies dans un coffret intitulé « Jazz from America » et qui présente 41 enregistrements historiques parus sur le label Vogue, dont ceux de Duke Ellington, Miles Davis, Sidney Bechet, Charlie Parker et quelques autres. Nous avons le bonheur d'accueillir Daniel Richard, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Vous êtes producteur, vous avez longtemps œuvré chez Universal, où vous avez soutenu la destinée d'artistes comme Hank Jones, Abel Lincoln, Salif Keita ou Rock Traoré, pour ne citer que. Vous avez reçu récemment le Grand Prix de l'Académie Charles Cros pour vos, entre parenthèses, services rendus au disque. Mais vous êtes surtout un auditeur passionné, un collectionneur de disques, vous avez été disquaire jadis. Et avec François Lecxoine, vous avez fait paraître cet imposant coffret que nous allons évoquer tout de suite. De quoi s'agit-il exactement ?
Ben, il s'agit de montrer plusieurs choses. La première, je pense, et la plus intéressante, c'est le début des années 50, de 50, disons, à 56, le foisonnement, la diversité de toutes les musiques qui étaient proposées à un auditeur, ce qui est donc tout à fait exceptionnel que de voir découvrir les rééditions de Gerald Morton et les musiques dites d'avant-garde de Miles Davis, donc au même moment, donc à la même époque, et ça sur des supports qui étaient tout à fait donc nouveaux, qui étaient le micro-sillon 33 tours, 25 centimètres.
Alors, je pense qu'il serait bon de rappeler l'importance des disques Vogue dans les années 50 et la genèse de ce label.
Les disques Vogue, en fait, c'est une réunion de copains qui aiment la musique de jazz et qui se disent, voilà, il faut pas simplement l'aimer, il faut aussi contribuer donc à la faire exister. Donc, ils ont démarré ce label en décembre 1948 et dès 49, le premier disque de Sidney Bechet, d'ailleurs, c'est un signe, était licencié d'un petit label américain. Et puis, une année plus tard, ça sera Sidney Bechet avec les premiers enregistrements et les premiers succès.
Pourquoi dit-on que les disques Vogue ont révolutionné en France, notre écoute du jazz? C'était un label audacieux, frondeur?
Oui, il était tout à fait frondeur, je pense que c'est le mot. Si on le compare avec Blue Star, c'était plus audacieux, c'était vraiment des amateurs. Donc, ils défendaient une musique qu'ils aimaient. Ils se souciaient guère de si cette musique allait être commerciale ou pas. C'était avant tout faire partager. C'est vraiment donc des amateurs de disques. Hein. C'est la raison pour laquelle aussi tous ces labels ont été signés sans trop de difficultés aux États-Unis, parce qu'il y avait déjà un rapport donc très fort, très lié avec des producteurs américains américains, comme Jen Norman, bien entendu.
Le fait de passer du 78 tours au 33 tours a-t-il modifié le mode de consommation, même si je n'aime pas ce terme, le mode de consommation de la musique ?
Oui, sûrement, parce que c'est évidemment beaucoup plus pratique. On le voit bien hein, dans la communication de Vogue à ce moment-là sur ce nouveau support. Il a beau être révolutionnaire, il a beau avoir énormément d'avantages, ils sont un peu timorés quand même, parce qu'il y a un parc important quand même de lecteurs 78 tours et constitue quand même l'essentiel du chiffre d'affaires, c'est quand même les ventes de 78 tours. Donc, on mène un combat sur les deux fronts. On met en avant le 78 tours parce que donc on doit le vendre et on sait que à court terme, évidemment, ce sont des ventes, mais aussi donc on développe comme ça de manière, je dirais donc un peu timorée, en disant raisonnable, donc le nouveau support qui est le 25 cm.
Vous avez en tout cas ressorti des entrailles de l'histoire, des documents étonnants comme Wynonny Harris que nous venons d'entendre en 1950. Peut-on dire qu'il a été l'un des précurseurs du rock'n'roll ?
Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs c'est tout à fait drôle et on dirait peut-être aussi un peu triste de voir que là, au début de ces années 50, on a donc l'émergence du rock'n'roll avec ces artistes noirs et qui bientôt vont être balayés donc avec les yéyés dès le début des années 60.
Elvis Presley s'est beaucoup inspiré, on va dire, des artistes de rhythm and blues de l'époque.
Oui.
Vous n'aimez pas ce terme inspiré. Pour vous, il a pillé le répertoire des Noirs américains ?
Oui, je le dis. Je sais que ça fait bondir beaucoup de mes amis, mais voilà, cette histoire, elle est celle-ci. Hein, il est beaucoup plus facile de s'identifier à un musicien blanc qui réinterprète une musique que de s'identifier donc à un musicien noir. Et ça, c'est valable plus aux États-Unis d'ailleurs qu'en France, mais néanmoins en France aussi, on l'a bien vu.
Il y a évidemment des artistes bien plus célèbres que Wynonny Harris dans ce coffret. Je pense notamment à Sidney Bechet. That's a Plenty, Sidney Bechet en 1940, repris par les disques Vogue en 1949 et dépoussiéré en 2015 par Vos Soins, Daniel Richard. C'était un 78 tours à l'origine ?
Oui, c'était le HRS, donc c'était une licence, comme je le disais tout à l'heure, avec ce label américain de collectionneur. Et c'était donc le premier disque commercialisé donc par Vogue. Alors c'était prémonitoire, puisque donc Sidney Bechet, voilà, donc on commence le label avec Sidney Bechet, et Sidney Bechet, quelques temps après, vous apporte gloire et fortune.
Qu'est-ce qui explique d'ailleurs le succès de Sidney Bechet en France ?
Je pense que la France avait besoin, comme tous les jeunes donc, à cette époque, d'une musique très vitalisée, si je peux dire, et sur laquelle on pouvait donc danser, d'où le succès donc, du revival, d'où le succès du boogie, et d'où le succès aussi, de cette façon, donc, du rhythm and blues qu'on vient d'entendre. Tout ça annonçait donc, une vraie révolution dans la musique populaire du monde entier, hein, mais donc d'origine américaine. Et lorsque le rock'n'roll donc, arrive, alors, toutes ces musiques-là disparaissent, et la musique populaire sur laquelle on danse n'est plus du jazz et devient donc une musique rock. Et malheureusement, donc, tous ces créateurs, tous ces pionniers disparaissent puisque les années 50-60 sont extrêmement, pour les musiciens de jazz, une période très compliquée jusqu'à les années, on peut dire, 70, où il y a de nouveau un intérêt avec les rééditions et une nouvelle musique, disons, de répertoire qui commence à naître. Et aujourd'hui, on peut dire que la musique de jazz est une musique, elle n'est pas populaire, mais elle est une musique de répertoire qui est appréciée donc dans le monde entier. Je pense que ce coffret participe aussi de ça, c'est de faire connaître ce qu'était la nouvelle musique.
À partir de quel moment le jazz américain a été une forme d'expression en vogue en France. Et pourquoi ? On dit que dès l'arrivée des Américains à la fin de la Première Guerre mondiale sur le territoire français, on a découvert finalement le jazz et il a été tout de suite apprécié par le public français.
Oui, il a été apprécié par le public français, mais ce qui était apprécié aussi, et c'est la raison pour laquelle le combat aussi de Hugues Panassier, qui était un combattant du vrai jazz, c'est que lui, il se battait pour ce qu'il appelle le vrai jazz, qui était donc la musique authentique des Noirs américains, opposée donc à la musique dite symphonique des gens comme Paul Whiteman, qui était une musique très populaire aux États-Unis et qui a toujours été, la musique blanche inspirée des musiques noires, toujours beaucoup plus populaire que la musique noire elle-même, en termes de vente de disques et de mise en avant aussi. Et donc, les labels français, dès le début du micro-sillon, ont fait de même. Ils ont mis en avant donc les musiques blanches avec assez peu de succès, alors que on vendait plus de disques de Louis Armstrong qu'on vendait de disques de Paul Whiteman. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, les ventes étaient énormes de Paul Whiteman et donc on pensait que très naturellement, donc en France, on allait apprécier ça de la même manière. En fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et Panassier a été donc un combattant qui a remporté donc la victoire, c'est de faire apprécier donc le vrai jazz, même si très souvent c'était un peu abusé et c'était quelqu'un de mauvaise foi, etc. Mais il avait disons un combat qui était donc tout à fait légitime. Et je défie quiconque de trouver que ses goûts et ses choix donc n'étaient pas les bons.
Rappelons qu'à cette époque donc il y avait deux courants de pensée qui s'opposaient. Les traditionalistes attachés au swing d'antan, c'était Hugues Panassier par exemple, et les progressistes qui s'intéressaient au nouveau jazz, le bebop. Où se situait Charles Delaunay, l'un des fondateurs des disques Vogue, dans cette confrontation entre traditionnalistes et progressistes?
Il était du côté des progressistes, d'où donc la rupture avec Panassier, qui s'est faite lorsqu'on regarde de près, à peu près naturellement. Il était très difficile de vivre avec Panassier, qui était donc quelque part un total diktat.
En tout cas, on a découvert le bebop dans ces années 40, qui était la musique progressiste de l'époque. Et le bebop, ça ressemblait à ça. Bebop, Charlie Parker en 1946, édité en 1952 par les disques Vogue et dont nous découvrons cette semaine les trésors grâce à Daniel Richard, notre invité dans l'épopée. Dans le coffret Jazz from America, concocté avec François Loxoine, vous avez reproduit les pochettes d'origine et on constate qu'il y avait beaucoup de dessins et finalement pas beaucoup de photos. C'était un choix éditorial ou économique selon vous ?
Je pense que c'était ni l'un ni l'autre au départ. Je pense qu'ils ont été quelque peu dépassés par ce nouveau format et que, évidemment, donc, le marketing n'était pas quelque chose auquel on pensait véritablement. Et quand ce nouveau support, d'ailleurs, c'est à peu près la même chose aux États-Unis pour certains labels, pas pour tous. Hein, les labels qui étaient sur le marché depuis un certain nombre de temps, eux, avaient connu aux États-Unis l'illustration de l'album 78 tours qui comportait plusieurs 78 tours. Là, on a connu au milieu des années 40 des illustrations. Ça préfaçait donc ce qu'allait devenir ensuite le 25 cm, même si on n'était pas donc à l'époque conscient encore de ce qu'allait être ce nouveau support, mais ça a été l'illustration aux États-Unis chez les majors, mais les indépendants n'avaient pas anticipé ce nouveau support et très souvent étaient pris à dépourvu. Donc il fallait très rapidement trouver le moyen de l'illustrer, d'où les photos donc pouvait poser un problème aussi. Il n'y avait pas de photographe véritablement de séance qui venait photographier et qui venait ensuite proposer donc des photos pour illustrer donc les listes. C'est arrivé un peu plus tard, hein, au début. Mais il est à noter que le disque de Miles Davis qui est cité donc dans le coffret,
lui,
voilà, figure une photo. Et là, le critique de Jazz Hot à l'époque était ravi qu'il y ait une photo de séance. Il dit « Enfin, nous avons une photo de séance ». Donc, il semblait préférer avoir des photos plutôt que d'avoir une interprétation extrêmement libre de la musique faite par un créatif. Mais c'est ce qui rend aujourd'hui aussi très attractif ces pochettes. Ça a été aussi ce qui a concouru à ce que je réédite ces albums. C'était aussi le côté tout à fait gratuit des illustrations donc de ces pochettes qui étaient faites par des artistes qui ne prétendaient pas non plus être des artistes, mais on voit la créativité quand même, on voit l'audace absolue.
Pour Charlie Parker, qu'on appelait Bird, il y a évidemment un oiseau sur la pochette. Pour Duke Ellington, c'est plus abstrait, on dirait du Picasso mélangé à du Kandinsky avec un petit peu de Dali.
Oui, alors c'est évidemment pas ce qu'on fait de mieux pour vendre un produit, comme on dit. Hein. Donc, mais moi, ça me ravit. On voit qu'il n'y avait pas ces préoccupations. Simplement, donc, le beau et l'aspiration artistique étaient donc ce qu'on recherchait.
Et puis pour la pochette des Spirit of Memphis, c'est très minimaliste. L'un des dessinateurs s'appelait Pierre Merlin, c'est ça ?
Pierre Merlin, c'est celui qu'on connaît le mieux, puisqu'il a fait une carrière de musicien. Et à l'international, par exemple au Japon, il est extrêmement reconnu pour la qualité de ses dessins.
Alors parlons maintenant des Spirit of Memphis que je viens de citer. Que savez-vous d'eux ?
Je sais ce que tout le monde sait, c'est-à-dire dans les biographies, il est vrai que ce label King a été le premier, donc d'où l'importance aussi donc des signatures chez Vogue. Le fait de signer un label comme King à l'époque, c'était assez audacieux parce que cette musique était réservée quand même aux États-Unis plutôt au public noir et que donc d'avoir l'audace de venir les publier donc en France, ça faisait preuve d'un vrai esprit de militant pour cette musique. Nos trois amis voulaient le défendre.
Donc Spirit of Memphis, c'est un groupe de gospel qui pourrait faire penser au Golden Gate Quartet ou aux Five Blind Boys of Alabama.
Plutôt les Five Blind Boys, oui.
C'est vrai.
Oui, beaucoup plus. Et d'ailleurs, Boris Vent donc aimait à citer le. Ils étaient quelque peu effrayants. Et donc, il disait, vous allez convaincre un mécréant de spiritualité avec ce groupe.
En tout cas, pour moi, ce fut une véritable découverte. Voici donc God's Got His Eyes on You, les Spirit of Memphis, enregistrés le 9 décembre 1950 à Cincinnati.
Well, you know my God got his eyes on you. Got his eyes on you. God got his eyes on you. Well, you know my God got his eyes on you. Got his eyes on you. God got his eyes on you. You know he sees everything you do, and he hears all the words you say. You know my God got his eyes on you. Got his eyes on you. Well, you know my God got his eyes on you. Got his eyes on you. Well, you know my God got his eyes on you. Got his eyes on you. Well, he sees everything you do, and he hears all the words you say. Oh, my God,
got his eyes on you.
Got his eyes on you.
Well, you know, my God, got his eyes on you. Well, you know, my God, got his eyes on you. Well, he sees
everything you do.
You know, yeah.
Les Spirits of Memphis, un quatuor vocal gospel qui serait sûrement tombé dans les oubliettes de l'histoire si le label Vogue n'avait pas édité leur disque en 1952 en France et si notre invité, Daniel Richard, ne les avait pas inclus dans ce coffret Jazz from America. Daniel Richard, nous pourrions continuer encore longtemps à illustrer nos propos à partir des pépites extraites de ce fabuleux coffret, mais l'heure tourne, il va falloir bientôt nous quitter. J'aimerais savoir s'il y a un disque au milieu de ces 41 enregistrements historiques qui vous touche davantage ou que vous êtes fier d'avoir ressuscité.
Oh, je dirais évidemment donc tous, parce que Oui, parce que j'aime ce que je fais et je fais ce que j'aime. Donc, rien ne m'a été donc imposé. J'ai essayé de le faire de la manière la plus diverse qui représente bien donc ce qu'avait l'esprit à ce moment-là, donc nos trois camarades, les trois producteurs donc de Vogue, donc ces amis qui se battaient pour la musique qu'ils aimaient. J'ai beaucoup aimé ressusciter, si je peux dire, les concerts de Gene Norman, de Frank Bull, parce que ça témoigne de ce qu'était cette musique de blues, de rhythm and blues à l'époque sur la côte ouest, là où officiaient donc ces deux producteurs qui étaient des disques jockeys, donc qui travaillaient pour la radio et qui étaient donc eux des fervents défenseurs de la musique noire. C'était donc les concerts au Pasadena Civic Auditorium ou au Los Angeles Civic Auditorium qui réunissaient à l'époque plusieurs milliers de personnes qui venaient donc communier, si je peux dire, dans une salle donc immense, plusieurs milliers, hein, c'était entre 5 et 7 000 personnes.
Vous me parliez hors antenne de Art Tatum. Pour vous, cet album est important?
Oui, il est important parce que ça a été la première édition micro-sillon, c'est-à-dire bien avant les Américains, 2 ans avant les Américains, donc Gene Norman, très ami donc avec Charles Delaunay, il y avait une connivence entre eux, et sûrement plus de connivence avec les Français qu'avec les Américains, puisqu'il a fallu attendre 2 ans pour que le disque soit publié par la Columbia, donc à l'époque. Il a d'abord été publié, la première publication, c'est donc ce disque avec cette merveilleuse illustration de Pierre Merlin. Ça a été la première édition micro-sillon de ces concerts de Art Tatum.
Art Tatum, immense pianiste, ce qui veut dire que les Français avaient du goût à l'époque. Pour ma part, j'ai entièrement frissonné à l'écoute de la voix magique de Mahalia Jackson. Est-ce que vous me comprenez?
Et oui, vous n'êtes pas le seul. Hein. Ça a été le début de sa carrière. C'est grâce aussi à la réception de cette musique en France qu'elle s'est fait connaître dans le reste du monde. Ce label Apollo était quand même destiné donc à la communauté. Peu de chances de franchir les barrières aux États-Unis, mais c'est grâce à la réception et au prix que Mahalia Jackson a reçu en France, que les Américains se sont appuyés sur cette réception donc très positive de cette musique en France pour l'élever. Et ensuite, donc elle a été signée chez Columbia, et ensuite elle a fait la carrière internationale que l'on sait.
Shall I meet you over yonder, Mahalia Jackson en 1950. Shall I meet you over yonder, l'illustre Mahalia Jackson, le 12 janvier 1950 à New York et publié par les disques Vogue en novembre 1952. Il vous a fallu combien de temps, Daniel Richard, pour rassembler toutes ces archives et concevoir ce coffret Jazz from America?
m'a fallu 6 mois à peu près, oui, 6 mois, même un peu plus de 6 mois, sans ce qui est beaucoup. Hein, vraiment, au départ, lorsque j'ai proposé ce projet à notre ami Daniel Baumgarten, je pensais donc, j'avais passé un mois ou deux, parce que j'ai pas mal de chantiers depuis un moment, j'avais très envie donc que ça se fasse, pas forcément de le faire moi, mais que ça se fasse. Et la raison pour laquelle aussi donc j'ai accepté de le faire, c'était notre ami François Lexion, avec lequel j'ai travaillé de nombreuses années chez Universal, lorsque nous avons pensé Jazz à Paris, Jazz in Paris. C'était à peu près dans cet état d'esprit, hein, c'est de travailler à deux comme ça, d'avoir une espèce de miroir avec François. Donc avec lui, c'était beaucoup plus facile. Néanmoins, ça a été donc 6 mois donc à deux, où il nous a fallu renaître chaque matin. Ça, j'aime beaucoup cette expression, parce que j'avais les choses que je savais et que j'aimais, et c'était de quand même réécouter les choses que je connaissais, parce que je suis pas le même aujourd'hui que j'étais quand j'avais, disons, 10, 12, parce que j'ai commencé à écouter le jazz à cet âge-là, même un peu avant. Donc, il y a des choses qui m'ont évidemment marqué et qui continuent aujourd'hui à être aussi fortes chez moi, mais il me fallait quand même remettre tout à plat.
En tout cas, ce coffret sera du plus bel effet au pied du sapin de Noël. Merci beaucoup, Daniel Richard, de votre passion et de votre science musicologique.
Merci, merci à vous, merci à vous.
Et joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Je profite de l'occasion pour vous signaler qu'un autre coffret imposant paraît chez Sony Legacy. Il s'agit de l'anthologie Weather Report, qui réunit les prestations live de ce groupe majeur des années 70 et 80, emmené par Joe Zawinul et Wayne Shorter, avec Jaco Pastorius et Peter Erskine. Les amateurs apprécieront. Et j'ajoute que ces enregistrements publics sont inédits et donc incontournables. La semaine prochaine, nous vous proposerons un florilège de l'année 2015 avec Ray Lema, Carlos Santana, Ronald Baker ou encore les Ambassadeurs, histoire de clore cette année éprouvante avec le sourire et l'espoir d'un monde plus juste et paisible. Merci à Victor Hull pour la réalisation impeccable de cette épopée swing à souhait. Et joyeux Noël à tous, où que vous soyez sur cette planète. Dans 30 secondes, le journal.